Louis XVI et la reine, nous régnons trop jeunes. Sans doute aurait-il fait un couple ordinaire, se contentant d'un bonheur un peu avare de sensualité et de passion, mais prodigue de tendresse, s'il n'y avait eu cette obligation de régner, d'occuper les temps les plus périlleux pour la monarchie absolue. Ils vont tenter de gouverner avec Turgot, Necker, Calonne, Brienne, Necker encore, jusqu'à l'ébullition de 1789. Le mariage des différences. Louis aime l'agriculture avec passion. Il adore faire bonne chère, reprendre de tous les plats. Marie-Antoinette ne jure que par le délicat, elle pignoche. Les plaisirs qu'elle recherche ne sont pas ceux de la table. À Versailles, l'Autrichienne s'ennuie pendant que son mari chasse et que la France souffre. Vous arrivez à Versailles en 1774. Vous demandez à rencontrer le dauphin, le futur roi Louis XVI. Où vous envoie-t-on ? À la bibliothèque, où il est plongé dans la lecture de livres scientifiques. Louis-Auguste s'intéresse à tout. Les progrès techniques, l'agriculture, les arts. On peut vous envoyer aussi dans un petit atelier où il aime se détendre, un atelier de serrurerie, avec des clés, des étaux, des limes. Il vous accueille la mine réjouie et les mains sales, pleines de graisse. La future reine Marie-Antoinette le lui reproche assez. Hâtez-vous de lui parler, il se prépare pour sa distraction favorite, la chasse. Bientôt, il va gouverner la France. Que de guerres ils se sont livrés, les Bourbons et les Habsbourg. Que de traités de paix ont été signés et dénoncés. Maintenant, voici venu le temps de l'amour. Maria Antonia de Habsbourg, 15e des 16 enfants de Marie-Thérèse d'Autriche et de l'empereur François de Lorraine, née le 2 novembre 1755 à Vienne, épouse le 16 mai 1770 le fils du dauphin Louis-Auguste, duc de Berry, né le 23 août 1754 à Versailles. Louis-Auguste avait un frère aîné, Louis-Joseph Xavier de France, duc de Bourgogne, enfant aimé de sa mère, de son entourage, de la cour, qui l'émerveillait par son savoir, son intelligence vive. Mais le petit duc de Bourgogne est mort à 10 ans de tuberculose le 22 mars 1761. Leur père, le dauphin Louis, né en 1729, premier fils de Louis XV, est mort le 20 décembre 1765 à Fontainebleau de tuberculose aussi. Louis-Auguste, petit-fils du roi Louis XV, est alors devenu le dauphin de France. Plus de 5000 invités assistent aux festivités du mariage les 16 et 17 mai 1770 à Versailles. Le dîner commence à 10h du soir, le 16 mai. Tout est somptueux, brillant, magnifique, sauf l'appétit de la dauphine. Maria Antonia, désormais Marie-Antoinette, touche à peine à la nourriture. On ne sait trop ce qui, ou qui, lui coupe l'appétit. Le dauphin, lui, a bon appétit. Soudain, un orage terrible éclate. Les éclairs zèbrent le ciel. On dirait une lame bleutée, folle, cruelle. Et dans le silence, le tonnerre et son tambour lancent d'effrayants roulements. L'orage se prolonge. On décide alors de ne pas tirer le feu d'artifice. Les deux jeunes gens, adolescents plutôt, Louis a 15 ans et Marie-Antoinette 14, se dirigent alors vers la chambre suivie de dizaines de témoins qui pourront attester que le futur roi et la future reine ont bien été vus allongés l'un près de l'autre avant qu'on ne ferme les rideaux et qu'on les laisse seuls, ou presque. Tôt, le lendemain matin, Louis part à la chasse. Marie-Antoinette s'accorde une grasse matinée. On commence déjà à la cour a remarqué le peu d'empressement du dauphin auprès de sa femme. Les fêtes du mariage se poursuivent jusqu'au 30 mai, jour où est tiré à Paris un grand feu d'artifice. Des centaines de milliers de Parisiens se sont approchés le plus près possible du lieu où vont partir vers le ciel les fusées. La place Louis XV, l'actuelle place de la Concorde. À cette époque, elle est entourée de larges fossés. Les premières fusées sont tirées dans le calme, mais soudain, l'une d'elles retombe prématurément sur un groupe de spectateurs qui cherchent à fuir. La panique s'empare de la foule. Hommes, chevaux, femmes, carrosses, enfants, cavaliers, la mêlée est indescriptible. Beaucoup tombent dans les fossés profonds qui entourent la place. Le lendemain, on compte plus de 130 morts. Louis XV frissonne. Louis XV s'alite. Il a de la fièvre. Après les fêtes de Pâques, il a préféré se retirer ce 27 avril 1774 au Petit Trianon. Jeanne du Barry est bien sûr à ses côtés. Le Monnier, premier médecin du roi, diagnostique 3 jours plus tard la variole noire, la plus terrible. Le 4 mai, le roi se sait perdu. Son calvaire va durer jusqu'au 10 mai. La variole noire laisse son corps informe, défiguré. Point d'obsèques publiques, le peuple est trop mécontent. Le coût de la vie augmente, les récoltes de 1773 ont été catastrophiques. Dès que le roi est mort, les courtisans se précipitent dans l'appartement où se tiennent Louis et Marie-Antoinette. À défaut d'être amants, ils sont de très bons amis de cœur et se retrouvent toujours avec beaucoup de plaisir. Lorsque les portes s'ouvrent sur eux, ils tombent à genoux, se tiennent embrassés, presque terrorisés. Louis s'écrie « Mon Dieu, gardez-nous, protégez-nous, nous régnons trop jeunes !»
Au lit, Louis et Marie-Antoinette. Rien. Entre Louis et Marie-Antoinette, il ne se passera rien pouvant conduire à la procréation, et cela pendant des années. Louis ne consommera son mariage que 7 ans après les festivités de mai 1770 à Versailles, exactement le 18 août 1777. Le frère de Marie-Antoinette, Joseph, appelé par sa sœur, inquiète de ne pas avoir encore donné d'héritier au trône, vient s'entretenir avec Louis du petit problème mécanique qui l'empêche d'aller au bout de ses entreprises. Un resserrement du prépuce, le prépuce est la peau qui recouvre le gland. La circoncision consiste en son ablation. Cette légère malformation est appelée phimosis, ce qui signifie en grec « resserrement ». Le témoignage oculaire de Joseph, de « oculus », l'œil en latin, est formel. Louis fonctionne bien, se montre ferme dans ce qu'on peut appeler la première phase du projet, mais les choses s'arrêtent là. Il demeure immobile 1 ou 2 minutes, dit Joseph, qui précise encore que l'affaire est pourtant bien engagée. Cependant, de la même façon que le feu d'artifice fut remis à plus tard le soir du mariage, et point d'explosion. Après une conversation intime d'homme à homme, Louis accepte la petite opération qui, de la même façon qu'on débride d'une mécanique, va le libérer. Et le 18 août 1777 au soir, Alléluia ! Ou enfin quelque chose dans le genre là.